France Culture.
La science, CQFD, Natacha Triou.
1969, ce petit pas pour l'homme sur la Lune aurait été impossible sans ces femmes de l'ombre, les calculatrices de la NASA. En quoi leur trajectoire est-elle symptomatique d'une discrimination des femmes dans l'histoire des sciences ? Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson ont joué un rôle crucial dans la conquête de l'espace. Lors de la recherche aérospatiale encore embryonnaire, elles ont développé des modèles mathématiques complexes qui ont guidé les vols spatiaux. Ces Afro-Américaines ont dû, en plus du sexisme, affronter le racisme et la ségrégation. Et sans le livre, puis le film « Les figures de l'ombre », elles seraient sûrement tombées dans l'oubli. Pourtant, leur cas n'est pas isolé. Utiliser des femmes comme calculatrices, cela se fait depuis le XVIIIe siècle. Quelles sont les racines culturelles d'une telle invisibilisation ? Mathématiciennes de l'ombre, elles ont compté pour la NASA. Fabienne Casoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne et présidente de l'Observatoire de Paris. Nous sommes en ligne également avec Amélie Puch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine et postdoctorante à l'Institut des Humanités en médecine de Lausanne. Et nous sommes également en ligne avec Louis-Pascal Jacquemont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste de l'histoire contemporaine des femmes et du genre, et plus spécifiquement des femmes et des sciences, et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob, l'effet Mathilda. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture, et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous rejoignant sur Blue Sky, c'est là où on poste pour vous tous les jours inlassablement de nombreuses ressources, et c'est à retrouver à Science CQFD. Alors pourquoi des femmes à ces postes-là? Comment travailler ces calculatrices humaines? Et de quelle façon les historiens des sciences tentent-ils aujourd'hui de les réhabiliter? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, cette histoire est ramenée à la mémoire collective grâce à la littérature et au cinéma.
Bonjour, colonel. Je m'appelle Dorothy Vaughan. Voici Mary Jackson, dont vous avez rencontré le mari, je crois.
Tout à fait, je suis enchantée.
Et madame Catherine Goebel. Elle est célibataire, veuve en fait. Elle a trois adorables fillettes.
Alors comme ça, vous êtes calculatrice à la NASA.
C'est exact.
Qu'est-ce que cela implique ?
Nous effectuons les calculs mathématiques nécessaires au lancement et atterrissage pour le programme spatial.
Ah, on peut dire que c'est du sérieux ?
Oui, en effet.
On laisse des femmes se charger de toutes ces...
Monsieur Johnson, si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien.
Je ne voulais pas vous manquer de respect.
Vous l'ignorez sans doute, mais il se trouve que j'ai été la première doctorante noire de l'Université de Virginie-Occidentale. Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 000 opérations de calcul avec des cosinus, des racines carrées et de la géométrie analytique cette semaine. À la main. Il y a 20 calculatrices de couleur au groupe Ouest, toutes des femmes compétentes au plus haut point, et nous participons fièrement à l'effort national. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA, Monsieur Johnson. Non pas parce que nous portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes.
Voilà un extrait du film « Les figures de l'ombre » de 2016, réalisé par Théodore Melfi, adapté du livre de Margot Lee Shetterly. Fabienne Casoli, ce film a fait énormément pour populariser le travail de ces mathématiciennes.
Ah, c'est clair. Moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu ce film, donc c'était la première organisée par la NASA à Paris, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne connais pas cette histoire? Pourtant, je m'intéresse quand même à l'histoire des femmes en sciences. Mais là, j'ai vraiment été bluffée. Et puis, de voir effectivement, alors même si c'est un petit peu romancé, à quel point elles ont dû se battre, à la fois parce que c'était des femmes et puis parce qu'elles étaient noires, c'est vrai que c'est émouvant. En même temps, j'aurais adoré être à cette époque-là, ça devait être terriblement excitant.
En effet, le moment de la conquête spatiale est un moment en effet riche, on l'a vu en excitation. Amélie Puch, c'est vraiment ce livre qui a joué un rôle important justement sur la redécouverte du travail de ces femmes scientifiques ?
D'un point de vue historique, disons que les historiens étaient quand même au courant du travail de toutes ces calculatrices et de ces calculateurs, hein, puisqu'il y a aussi des hommes qui font des calculs dans les observatoires, mais pas forcément, il n'y avait pas forcément de figure qui se détachait, ou en tout cas pas auprès du grand public. L'avantage de ce livre et du film qui en a découlé, c'est que ça a fait connaître ce travail des calculatrices en dehors du champ spécialisé des historiens, en fait.
Louis-Pascal Jacquemont, peut-être qu'on peut dès maintenant rappeler dans quelle mesure justement ces femmes-là ont joué un rôle majeur pour le programme spatial américain.
Alors, une petite précision, il y a une quatrième femme qui est aussi
qui
concernée.
Qui n'est pas citée, en effet.
C'est Christine Dardenne, qui a été complètement oubliée par le film, qui est à peine esquissée dans le roman, en fait, enfin dans l'ouvrage qui a servi de base au film. Alors, qu'est-ce qui les a amenées à être, j'allais dire, présentes comme cela? En fait, comme le disait Amélie Puch, ce n'est pas la première fois que les historiens s'intéressent à leur cas de figure. Depuis le mouvement féministe des années 60-70 aux États-Unis, il y a toute une série de sujets qui ont été soulevés, qui ont fait l'objet d'articles. Et donc, les calculatrices sont un pan de ces recherches. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que par rapport à la popularité qu'a apporté le film et le discours qu'il a tenu et la sensibilisation qu'il a faite, il a eu un effet beaucoup plus important, d'autant plus qu'il y avait deux discriminations croisées, le fait qu'elle soit noire et le fait qu'elle soit femme.
Et on verra évidemment en deuxième partie d'émission comment justement ce travail de réhabilitation est-il mené encore aujourd'hui. Mais par rapport à cette histoire de la NASA, Amélie Puch, la NASA c'est d'abord la NACA en 1915 qui triple de volume avec la Seconde Guerre mondiale, qui devient donc la NASA en 1957. Pourquoi cette agence a-t-elle employé des femmes et pas qu'un peu?
Alors, employer des femmes dans les observatoires, c'est pas une grande nouveauté. En fait, déjà au XVIIIe siècle, il y avait des femmes qui faisaient les calculs, vous l'avez dit. Au XIXe siècle, dès la fin du XIXe siècle, les observatoires vont engager des femmes, très officiellement, avec des contrats et des salaires, pour mener tout un tas de calculs. Donc, en fait, ça paraît assez logique en 1959 ou en 1957 ou en 1969 d'embaucher des femmes comme calculatrices, puisque en fait, ça se fait depuis déjà la fin du 19e siècle.
Alors, ça se fait depuis longtemps, Louis-Pascal Jacquemont, mais justement, quel est l'avantage d'embaucher des femmes à la NASA?
Un petit rappel, hein. Si vous vous souvenez bien, l'observatoire de Paris a été créé par Louis XIV. Et donc, il y a déjà des femmes observatrices et calculatrices qui sont embauchées. Donc, ça n'est pas... effectivement, ça remonte même à la fin du XVIe et au XVIIe siècle, le fait qu'elles soient présentes. Ensuite, pour quelles raisons? Mais on est à un moment de bascule où on considère que les études, notamment... supérieures ne sont pas plus exclusivement réservées aux femmes, et notamment des milieux aristocrates, des milieux bourgeois qui peuvent se le permettre et avoir des précepteurs. Et du même coup, avec les salons, avec les académies, vont se multiplier les lieux et les journaux savants vont circuler. Par contre, on va conserver l'université, notamment pour éduquer et fabriquer des clercs, donc uniquement des hommes. Donc en fait, le décollage se situe à peu près à ce moment-là, si vous voulez.
Et Fabienne Cazoli, vous souhaitiez compléter?
Oui, je vais compléter, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. Je pense que la NASA avait besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Tous ces calculs étaient en grande partie faits à la main, en utilisant les équations, des tables de logarithmes, des règles à calcul. Et les femmes étaient quand même payées beaucoup moins que les hommes. Alors les femmes noires, sans doute encore moins. Donc je pense qu'il y a aussi un peu un calcul économique là derrière. On avait effectivement un vivier, un pool de femmes compétentes qui étaient formées. Et voilà. Alors, pour ce qui est des femmes dans les observatoires, à l'Observatoire de Paris, pour qu'une femme soit employée comme astronome, hein, c'est-à-dire chercheur, il a fallu attendre Edmé Chandon, dont peut-être on reparlera dans la suite de l'émission, en 1912. Les dames qui étaient employées comme calculatrices à l'Observatoire de Paris à la fin du 19e, début 20e, elles faisaient des relevés, c'était ce qu'on appelait les dames de la carte du ciel, elles faisaient des relevés de position sur les plaques photographiques. Mais elles n'avaient pas le droit d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation. Mais sinon, le côté économique a dû beaucoup jouer pour la NASA.
En effet, on a besoin de main-d'œuvre. Généralement, les femmes sont donc moins coûteuses à embaucher que leurs homologues masculins, moins onéreuses que les machines à calculer. Louis-Pascal Jacquemont, justement, quel est le travail de ces calculatrices humaines qu'on a aussi surnommées les calculatrices à jupe?
Comme on vient de, comme notre ami vient de le dire, il y a besoin, un gros besoin de main-d'œuvre. Tout simplement parce que une grande partie des hommes sont davantage mobilisés sur d'autres secteurs et des secteurs économiques au lendemain de la guerre. Ensuite, parce que le projet Manhattan, notamment, a montré aux États-Unis, je rappelle que ce projet Manhattan comporte pratiquement 25% de femmes. On l'oublie un petit peu, cet aspect-là. Et du même coup, on les a embauchés pendant la guerre, massivement, pour plein d'activités. Pas seulement des activités scientifiques, mais entre autres des activités scientifiques. Et donc, on va voir au lendemain de la guerre, cette place donnée aux femmes, pour des raisons économiques qui viennent d'être évoquées, mais aussi parce que on s'est rendu compte qu'elles avaient des compétences et que ces compétences-là valaient bien celles des hommes. Autrement dit, les dirigeants à l'époque ne sont pas complètement tombés des nues et se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire une place. Comme économiquement, ils pouvaient aussi gagner finalement en les payant beaucoup moins. Et je rappellerai notamment qu'au XIXe siècle, une femme qui rentre dans un observatoire, par exemple, elle doit pendant au moins 2 ans ne pas être rémunérée, alors qu'un garçon l'est. Ce qui est assez paradoxal. Donc, vous voyez, on se trouve dans une situation où, sur le plan du contexte de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, la place des femmes dans la société et dans le domaine, notamment les domaines scientifiques, devient de plus en plus importante.
Alors ces femmes-là, justement, ces mathématiciennes, Amélie Puch, on a peut-être l'occasion ensemble de pouvoir présenter ces personnages historiques. La première, Dorothy Vaughan, qui est une des premières opératrices noires du Centre informatique de l'Anglais, qui commence à travailler à la NACA en 1943. Elle devient en 1949 la première manageuse afro-américaine de la NACA en tant que chef de section de l'unité de calcul de la zone ouest. Alors justement, que font ces femmes-là et quelle est justement l'importance de leurs travaux?
Alors, ce que je voulais souligner aussi, c'est que elles sont très fortement diplômées. Là, on parle, en tout cas pour cette figure-ci, d'une femme qui a un doctorat, qui est quand même un diplôme très important, le plus haut diplôme universitaire, si on peut le dire comme ça. Mais donc, ce sont des femmes qui généralement sont, ont un bagage scolaire, un bagage intellectuel extrêmement important, qui ont énormément travaillé, qui ont décroché des diplômes, parfois beaucoup plus que leurs homologues masculins pour les mêmes postes, ça aussi, on peut peut-être le rappeler. Elles vont continuer à faire de la recherche, elles vont continuer à faire de la science, à publier et donc à produire des avancées dans leur domaine significatives. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, c'est vrai un peu partout. Donc en fait, ce sont des femmes de science extrêmement importantes et souvent on oublie un petit peu de le dire, puisque leur statut soit de pionnière, pour le cadet de Méchandon par exemple, d'exception en tout cas, efface un petit peu cette importance scientifique qu'elles vont avoir derrière leur histoire personnelle. Voilà, ce sont de vraies scientifiques, elles ont une importance scientifique qui va être minimisée au fur et à mesure du temps, derrière l'exceptionnalité qu'elles peuvent représenter, le fait d'être des premières.
Je crois que l'un d'entre vous attend un appel. Mais Louis Pascal, Jacquemin, on parle de l'importance scientifique de ces personnalités historiques. Il faut aussi parler de Katherine Johnson.
Oui, Katherine Johnson est peut-être la plus singulière dans l'affaire, parce que la plupart des autres vont créer des services, notamment autour de l'informatique, autour de prolongement, si je puis dire, de leurs compétences en calcul. Katherine Johnson, c'est davantage, si vous voulez, celle qui est mathématicienne pur jus. Et du même coup, comme elle a une très grande expertise dans ce domaine, et c'est vrai qu'elles sont souvent davantage diplômées que les hommes, et elles ont beaucoup plus de compétences dans ce domaine, c'est elle qui va être proche de toutes les équipes qui s'occupent notamment du programme Apollo, après le programme Mercury. Et donc, avec le programme Mercury, c'est elle qui calcule, est chargée de calculer en particulier les trajectoires, notamment du premier vol orbital, qui est celui de John Glenn. Et l'anecdote qui est rapportée dans le film et dans le livre, c'est qu'effectivement, John Glenn n'a pas, pour la première fois, on fait des calculs avec un ordinateur, eh bien, il n'a pas confiance dans ses calculs, et il va demander à Katherine Johnson de les vérifier avant de partir le 20 février 62. Et effectivement, il a félicité, et il va dire d'ailleurs, je ne partirai pas si elle ne fait pas ces vérifications-là. Et je signale également que c'est elle, Katherine Johnson, qui va participer qui va avoir la responsabilité cette fois-ci des calculs pour le lancement d'Apollo 11 en juillet 69, la fameuse mission qui envoie Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Et c'est elle qui assure le rendez-vous entre le module lunaire et le module de commande. Et une autre femme va jouer un rôle, Margaret Hamilton, va jouer un rôle clé, puisque c'est elle qui va débloquer le bug qui s'est produit dans les ordinateurs du module de commande pour que le module lunaire puisse atterrir correctement.
Margaret Hamilton, en effet, spécialiste des problèmes complexes. Fabienne Casoli.
Oui, je voulais aussi souligner quelque chose qui m'a frappée, c'est que ces femmes ont commencé comme mathématiciennes, donc en travaillant sur des équations, des calculs, mais apparemment elles ont toutes pris le tournant de l'informatique. Elles se sont lancées dedans, alors que c'est pas complètement la même chose, hein. Elles ont appris et développé le Fortran, développé des codes, des algorithmes, même inventé des codes complets. Donc c'est assez comme évolution, je trouve que là aussi elles ont vécu et été actrices d'une évolution importante.
Et en effet, puis aussi Mary Jackson qui rejoint la NACA en 1951, qui devient la première ingénieure afro-américaine de la NASA. Alors comme on vient de l'évoquer, ce n'est pas une histoire uniquement liée à la période contemporaine, en quoi leur trajectoire est donc symptomatique d'une discrimination bien plus vaste. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD. Natacha Trio.
En direct sur France Culture avec Fabienne Casoli, Amélie Puche et Louis-Pascal Jacquemont, nous parlons de ces femmes calculatrices, celles de la NASA, qu'on a donc surnommées aussi les ordinateurs avec des jupes. On vient de voir pourquoi elles étaient donc cantonnées à leur rôle subalterne. Alors au cours du 19e siècle, il a été de plus en plus courant de confier des tâches de calcul à ces femmes. Mais Louis-Pascal Jacquemont, on l'a déjà un peu évoqué, utilisé des femmes comme calculatrices, et ça dès la fin du 18e siècle, avec des femmes de bonne société.
Oui, et même avant le 17e siècle, comme je l'évoquais, dès le 17e siècle, avec les premiers observatoires. Bon, imaginez que actuellement, on a l'habitude de consulter notamment le positionnement avec des coordonnées géographiques, de latitude, de longitude, etc. Eh bien, toute une série de calculs ont été faits au 17e et au 18e siècle pour établir des tables qui étaient des tables de navigation, justement pour positionner correctement, grâce à l'observation astronomique, toute une série de lieux dont on ne connaissait que jusqu'à maintenant que les récits de navigation à hauteur d'eau, si je puis dire. Et là, on voit que, je pense à l'exemple des femmes autour de Jacques de Lalande, un certain nombre d'entre elles ont pu établir énormément de tables de cette nature qui ont servi à la navigation et qui ont permis de développer la navigation. Là aussi, Ce sont souvent des femmes de l'aristocratie, ce sont souvent des femmes qui ont bénéficié d'une éducation, et d'un, à la fois d'une appétence pour le domaine scientifique et le domaine mathématique, et en même temps qui ont bénéficié souvent parce qu'il y avait des frères ou qu'il y avait des précepteurs que connaissait la famille, d'une éducation très forte. Ce qui explique d'ailleurs qu'on a très bien compris à la fin du 19e siècle que l'émancipation des femmes passerait par une multiplication des lieux d'éducation. Les hidden figures ont bénéficié d'une situation très particulière, c'est l'existence aux États-Unis d'universités qui étaient exclusivement ouvertes aux femmes, des collèges privés, et ensuite certains collèges qui, dans le cadre des campagnes pour l'élargissement des droits des Noirs, ont accueilli des femmes noires.
En tout cas, en France, au XIXe siècle, avec la création des observatoires, on va recruter massivement des femmes dans ces lieux de science. Et je vous propose d'ailleurs un extrait, une lecture de votre livre, L'effet Mathilda. Du XVe au XIXe siècle, l'astronomie recourt au travail des femmes. Elles sont aides domestiques, instrumentistes, fabricantes, voire commerçantes, puisqu'il faut bien en amont créer les télescopes et autres appareils d'observation et, en aval, répertorier les données et comptabiliser les travaux réalisés. Leur présence n'est pas massive et les hommes savants, ingénieurs ou artisans, tiennent le haut du pavé. Néanmoins, les calculs astronomiques et les catalogues d'observation semblent de plus en plus à la main de calculatrices. Pour la France, la présence de femmes dans les laboratoires et les ateliers s'accroît et se professionnalise à la fin du 19e siècle et au début du 20e, dans la foulée du développement des institutions scientifiques, comme le montre le cas de l'Observatoire de Toulouse et de l'ouverture d'établissements scolaires secondaires et professionnels pour les filles à la faveur de la loi de Camille C. en 1880. Meilleures que les hommes en mathématiques, moins coûteuses, plus patientes et plus aisément corvéables, selon l'impensée sociale du temps, elles occupent de plus en plus les postes subalternes. Dans le meilleur des cas, elles franchissent quelques étapes hiérarchiques, modérément, plafond de verre oblige. Amélie Puch, en effet, c'est vers la fin du 19e siècle qu'on va voir apparaître aussi celles qu'on appelle les dames du calcul.
Oui. Je voulais juste peut-être rebondir sur ce que Monsieur Jacquemont avait dit juste avant en parlant des femmes autour de la Lande, peut-être en nommer quelques-unes, peut-être les plus célèbres. Donc, je voulais juste rappeler qu'il y a comme calculatrice célèbre autour de la Lande, nous avions Nicole Reine Le Pôte, Marie-Louise Dupierry et Marie-Jeanne Lefrançois, par exemple. Voilà, c'était juste avant de compléter les propos de monsieur Jacquemont.
Marie-Jeanne Lefrançois, en effet, qui est connue pour ses catalogues de positions très précises, d'étoiles, ses éphémérides qui sont indispensables pour les calculs de position en mer. Je vous laisse poursuivre, Amélie Puch.
Oui, alors, effectivement, si ces dames apparaissent, comme ça a été dit juste avant, puisque l'enseignement pour les filles se démocratise de plus en plus, dès même la fin du Second Empire, puisque n'oublions pas que les femmes rentrent à l'université dès 1867, et donc nous sommes même avant la Troisième République. Mais c'est un mouvement qui traverse tout le 19e siècle, les filles vont être de plus en plus éduquées, il va y avoir des mesures dans ce sens. Nous arrivons sous la Troisième République avec d'un côté les lois Ferry qui imposent à tout le monde d'aller à l'école. Donc les filles vont être de plus en plus éduquées, avec la loi Camille C qui va leur ouvrir les portes d'un enseignement secondaire, donc un enseignement secondaire qui ne leur permet pas de passer le baccalauréat, donc qui ne doit pas leur permettre d'entrer à l'université, mais tout de même qui leur permet d'entrer dans ces postes, notamment de calculatrice, puisqu'un un diplôme d'enseignement secondaire est suffisant pour occuper ces postes, même si un certain nombre d'entre elles est de plus le temps passant, les observatoires vont avoir des diplômes un peu plus élevés. Nombreuses vont passer par les universités de sciences, les facultés de sciences, notamment en mathématiques, et vont avoir des licences de sciences. Je dis ça parce qu'on parlait de rebondir peut-être sur Edmé Chandon tout à l'heure. Donc voilà, je commence à poser quelques bases. Parfois même des doctorats, c'est ce que Edmé Chandon, plus tard, alors même qu'elle est en poste, passera son doctorat. Donc voilà, un enseignement qui leur permet d'accéder à ces postes.
Edmé Chandon, qui est en effet considérée comme une pionnière.
Un ciel plus vaste, si vaste que nous l'appelons l'infini, a sollicité en 1930 l'attention persévérante d'une jeune femme. Molière, par la bouche de Chrysal, l'eût peut-être confondu bien à tort avec sa Philaminte et raillé sa longue lunette à faire peur aux gens.
Il n'empêche que Mademoiselle Edmé Chandon, docteur et sciences mathématiques, fut nommée en 1930 adjointe à l'Observatoire de Paris.
Un extrait de l'émission à vous, mesdames, sur la RDF en 1949, Fabienne Casoli. Edmé Chandon, elle est considérée comme la première femme astronome professionnelle en France.
Effectivement, ça a été la première à avoir un poste d'astronome, alors tout en bas de l'échelle, en 1912, après les 4 ans de stage non rémunérés, réglementaires. Et c'est vrai qu'elle a poursuivi une belle carrière. Donc sa thèse, je pense que c'était plus tard, c'était en 1930. Edmé Chandon, c'est un cas assez frappant parce que sa carrière a vraiment décollé après la Deuxième Guerre, ou pendant la Première Guerre mondiale, parce que jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas le droit de faire des observations de nuit parce que ça pouvait être un peu inconvenant, puisqu'il y avait aussi des messieurs. Ces messieurs étant partis à la guerre, il a bien fallu faire les observations qui étaient nécessaires pour régler les horloges qui diffusaient l'heure. Et donc, arrive 1918, et bien le directeur de l'observatoire de l'époque se dit « Mais finalement, c'est pas si mal, elle fait bien son boulot, il n'y a pas tant d'inconvénients que ça à avoir des femmes qui travaillent la nuit. » Et donc, c'était un peu, voilà, c'était vraiment un grand démarrage dans sa carrière. Et elle a été très encouragée, elle a passé un doctorat bidisciplinaire. Ce qui est un peu triste, c'est que pour elle, la Deuxième Guerre mondiale, par contre, a été très difficile. Vous savez que les lois de Vichy interdisaient plus ou moins le travail des femmes. Et à 50 ans, on était mise à la retraite de manière obligatoire. Et donc, elle a été obligée de prendre sa retraite. Je pense que là, ça a été vraiment difficile, même si l'observatoire a trouvé un moyen pour qu'elle puisse continuer à travailler. Donc, d'une certaine manière, la guerre lui a donné des opportunités. C'est un peu triste à dire. Mais la Deuxième Guerre mondiale, par contre, a complètement barré son chemin.
En tout cas, Émilie Puch, quand Edmé Chandon est nommée astronome, les journaux en parlent et ça fait même les gros titres.
Oui, alors ça, c'est une caractéristique de toutes les premières, les pionnières. Les journaux sont toujours très surpris qu'une femme puisse conquérir un domaine masculin, que ce soit dans le supérieur, que ce soit dans les professions. Donc, effectivement, pour l'historien, c'est une source qui est géniale, les journaux, puisque à chaque fois, les journalistes sont là et relatent ce qu'il se passe. Ils vont de leurs petits commentaires, bienveillants au moins en fonction de la ligne politique du journal. Mais donc, c'est un instrument de savoir pour l'historien à l'heure actuelle des conquêtes féminines qui est assez extraordinaire.
Louis-Pascal Jacquemont, vous souhaitiez réagir?
Oui, justement, Edmé Chandon représente, pour moi, l'image même de l'effet Matilda, c'est-à-dire la discrimination dont elle est victime. Non seulement sa carrière va être très lente et elle ne finira jamais au poste de direction qu'elle pouvait tout à fait envisager parce qu'elle en avait les compétences. Ensuite, le deuxième élément, c'est que elle est multidiplômée, hein, comme cela a été rappelé. Elle fait des travaux que d'autres n'auraient certainement pas réussi à faire. Elle est à l'origine, en particulier avec Esclangeon, du système de diffusion de l'heure, hein, comme on la connaît jusqu'à ces dernières années. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que postulé, plus ou moins, enfin plus exactement, c'était son directeur qui avait poussé à devenir membre de l'Académie des sciences. Eh bien, tenez-vous bien, l'Académie des sciences lui a systématiquement préféré un homme. Donc ça montre à quel point il y a un enfermement des femmes qui pourtant ont montré toutes leurs compétences dans une sorte de discrédit ou en tout cas de seconde zone en considérant qu'elles sont pour les titres, pour le pouvoir, elles sont inférieures. Donc elles doivent rester à leur place, comme on disait à l'époque.
Alors qu'est-ce que cet effet Mathilda ? Quels sont les processus qui ont conduit à effacer les femmes de l'histoire des sciences ? Et pourquoi des domaines féminins ont-ils été créés au sein de la science ? Restez avec nous. De Kay Rottenberg en direct sur France Culture, car nous parlons des calculatrices de la NASA et plus généralement de la place des femmes de science dans les observatoires et dans les mathématiques liées au spatial. On en parle avec Fabienne Casoli, astrophysicienne, présidente de l'Observatoire de Paris, Amélie Puge, docteur en histoire contemporaine et post-doctorante à l'Institut des Humanités en médecine de Lausanne, et Louis-Pascal Jacquemont, historien spécialiste de l'histoire contemporaine des femmes et du genre, et plus spécifiquement des femmes et des sciences. On vient de parler de ces calculatrice de la NASA, de cette pionnière qui a été Edmond Chandon. N'oublions pas également, et parlons-en ensemble, Fabienne Casoli, Dorothea Klumke, née en 1861, morte en 1942.
Oui, je pense que ça mérite, elle mérite vraiment d'être rappelée, mentionnée. Je crois bien que c'était la première femme titulaire de doctorat en sciences à l'université de la Sorbonne, quelque chose vers 1898. Alors, on connaît sans doute moins son nom parce qu'elle a fait toute sa carrière comme astronome plutôt aux États-Unis. Je crois qu'elle avait travaillé là-bas avec son mari. Puis elle a fini à la fin de sa vie, elle est revenue à l'Observatoire de Paris. Mais c'était aussi une personnalité très forte, très attachante. Et puis un doctorat fin 19e pour une femme, c'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal, et en effet, c'est pas mal aussi. Elle a participé activement au projet Carte du Ciel. Et alors, on en revient à ce fameux effet Mathilda, Louis-Pascal Jacquemont. En France, c'est l'historienne des sciences Margaret Rositer qui a nommé donc cette, qui parle de cet effet Mathilda. Alors déjà, qu'est-ce que ce terme, à quoi correspond-il ?
Alors, l'expression effet Mathilda a été effectivement créée par cette historienne américaine, Margaret Rositer, qui est féministe et qui appartient un petit peu au mouvement dont le correspondant en Europe et en France est le MLF, si vous voulez, et qui va subir dans sa carrière toutes les avanies possibles qu'une femme peut rencontrer malgré ses diplômes, malgré ses avancées. Et surtout, elle est historienne, elle a voulu travailler sur la place des femmes dans l'invention, dans les découvertes. Et on lui a tout de suite dit, mais c'est pas la peine de chercher, il y en a pas. Elle s'est penchée tout de suite sur la bibliothèque de Harvard, où elle a compulsé tous les ouvrages qui étaient présents, et elle a recueilli plus de 500 noms. Ce qui est quand même paradoxal. Mais Malgré cela, sa carrière a été particulièrement difficile puisqu'elle n'a jamais eu de poste définitif, elle n'a jamais eu de poste complet de titulaire. Elle a toujours pu travailler avec des bourses qu'elle obtenait, financées par des mécènes ou financées par tel ou tel organisme universitaire. Donc c'est assez paradoxal. Et donc, par rapport à ces femmes dont elle avait recueilli l'histoire et le nom, elle a cherché à lui donner un nom à cette situation particulière de ces femmes qui toutes existaient, mais soit n'étaient pas nommées, soit avaient disparu de la circulation, si je puis dire, avaient été oubliées. Et donc, elle s'est penchée sur les travaux qui avaient déjà été faits, et notamment les travaux du sociologue Robert Merton, qui avait trouvé à désigner sous le nom d'effet Mathieu le phénomène où des hommes avaient été, d'une certaine manière, spoliés de leurs travaux par des concurrents ou des collègues de bureau. Et donc, à partir de là, elle dit, mais effet Matthieu, ça renvoie à l'évangéliste Matthieu, et notamment à cette phrase de l'évangile de Matthieu qui est dit, à celui qui est déjà riche, on lui donnera, il aura encore plus, et à celui qui n'a pas, même s'il a peu, on lui enlèvera, et il n'aura plus rien. Et donc, elle dit, ah, mais oui, quand on lit cette phrase, Merton s'est surtout intéressé à la première partie, et moi, quand je constate la deuxième partie, à celui qui n'a rien, même ce qu'il a, on le lui enlèvera, il n'aura plus rien, là, ça caractérise complètement les femmes. Et à ce moment-là, elle a cherché à désigner, trouver un nom pour pouvoir désigner ce phénomène, et que l'on appelait à l'époque « effet de halo ». Et donc, pour trouver ce nom, elle s'est penchée sur l'histoire américaine et elle a découvert une féministe américaine, journaliste, qui s'appelle Matilda Jocelyn Cage. Eh bien, elle a repris le prénom de Matilda parce que cette journaliste avait, dans son époque, entre 1840 et 1898, avait elle-même subi ce phénomène de discrimination d'effet Matilda. Pour la situer, c'est une journaliste, mais c'est aussi une militante féministe qui a à la fois signé les différents textes pour l'abolition de l'esclavage et pour les droits des Noirs aux États-Unis et également pour le droit de suffrage pour les femmes. Je signale également qu'elle a écrit, cette féministe américaine, Matilda Jocelyn Gage, elle a écrit un ouvrage qui était « Woman is Inventeur, les inventions des femmes ». Et puis elle est allée plus loin, elle s'est rendue compte que la Bible était misogyne, elle a réécrit la Bible, justement pour montrer son désarroi de la trouver sous cette forme-là. Au passage, une petite anecdote, son gendre est l'auteur du Magicien d'Oz.
Merci.
On a beaucoup de personnalités féminines.
Mais en tout cas, cette historienne Margaret Rossiter explique aussi, Amélie Puch, elle explique aussi pourquoi le rôle des femmes scientifiques n'a été envisagé aussi que, d'un point de vue, que dans un rôle de subordonnée.
Oui, alors là, on peut aborder un petit peu les images qui collent à la peau des femmes en sciences de la fin du 19e jusque assez tard dans le 20e siècle. En fait, on s'imagine, quand on ne pense pas que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, on pense que à minima, elle manque d'une certaine logique, elle manque d'un certain esprit d'abstraction et elle manque du coup d'une possibilité de vue d'ensemble et d'une possibilité d'être créatrice de nouvelles théories, tout simplement parce que étant les seules à pouvoir procréer, voilà, on est sur ce diptyque, les femmes procréent, les hommes créent, étant les seules à pouvoir procréer, leur esprit a forcément une tournure différente de celle des hommes, et notamment, elles vont s'attacher aux détails qui permet le bien-être du nourrisson, et cela est renforcé par le fait qu'elles sont confinées à la maison et confinées aux tâches du ménage. Donc, l'évolution est différente et elles n'ont pas cette capacité à créer, qu'auraient les hommes. Elles ne l'auraient pas. Et donc, ça en fait de mauvaises scientifiques, de mauvaises femmes en capacité de renouveler la science. Par contre, ça en fait d'excellentes collaboratrices, puisque elles vont être méticuleuses, elles vont être attentives aux détails et puis aux petites choses. Donc, ça en fait de très bonnes, ça en ferait de très bonnes assistantes. Et donc, je voulais juste préciser que du fait de ces pensées, lorsque elles étaient amenées à publier peut-être à quatre mains avec un homme, ça explique, ça permet peut-être un peu d'illustrer cet effet Mathilda. Lorsque elles publient un article avec un homme, en fait, on s'imagine qu'elles ont fait le petit travail répétitif de vérification des informations, tandis que celui qui est à l'origine de l'idée novatrice de l'article et de la théorie scientifique va forcément être l'homme. C'est pour ça que certains hommes, tels Benjamin Bayot à l'Observatoire de Paris avec Edmé Chandon et d'autres, va encourager les femmes à publier en leur nom seul. Puisque si elles publient en leur nom seul, cela pourrait montrer que c'est elles qui sont à l'origine de tout le travail, de la théorie jusqu'à l'exécution, alors que lorsqu'elles publient avec quelqu'un, cela souvent leur est dénié. Donc, leur nom se perd pour la science, quelque part. Voilà. J'espère avoir été claire sur cet exemple.
Très clair, Effie. Ce très grand nombre de stéréotypes que vous venez de décrire, ce sont aussi des choses que l'on retrouve dans cet ouvrage, Les figures de l'ombre. Les ingénieurs n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, car chacun d'eux requérit le soutien d'un certain nombre d'autres collègues. Des artisans pour construire les maquettes des avions testés dans les souffleries, des mécaniciens pour entretenir les souffleries en question, et des petits génies en calcul mental pour traiter le déluge numérique issu de ces recherches. Portant ces traînées frottements et flux, qu'est-ce qu'un avion si ce n'est un faisceau de données physiques? Et la physique est synonyme de mathématiques, et les mathématiques réclament des mathématiciens. Or, depuis le milieu de la décennie précédente, ces mathématiciens étaient des femmes. Le premier pôle de calcul féminin de l'anglais, créé en 1935, avait provoqué une tempête de protestations chez les hommes du laboratoire 17. Comment des femmes pouvaient-elles s'attaquer à une matière aussi rigoureuse et aussi précise que les mathématiques ? Un extrait des figures de l'ombre de Margot Lee Shetterly. Voilà les femmes qui n'auraient pas cette froideur logique, et ça nous vient depuis Hippocrate. Vous souhaitiez réagir, Fabienne Casoli?
Oui, je voudrais apporter un peu ma pierre à l'édifice pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle maintenant les biais cognitifs, et puis ce qu'on imagine du mode de fonctionnement des femmes ou d'autres groupes. Vous savez sans doute que les observations que nous faisons, les astronomes, soit sur des grands télescopes au sol, soit sur les grands télescopes spatiaux, on le fait en faisant des propositions, deux fois par an typiquement. Il y a des campagnes pour proposer des observations, par exemple sur le télescope spatial Hubble. C'est très compétitif, hein, entre une sur cinq, une sur dix propositions est choisie. La NASA se demandait pourquoi les propositions portées par des femmes avaient moins de succès et étaient moins choisies que les propositions portées par des hommes. Et ils ont décidé de faire une expérience en vraie grandeur en anonymisant les propositions. Eh bien, curieusement, dès ce moment-là, les propositions portées par des femmes ont eu un petit peu plus, elles sont passées un petit peu plus facilement, plus de succès que les propositions portées par des hommes. Simplement, on ne savait pas qui était le porteur. Et c'était vraiment parce que on s'attendait à ce que ça soit moins bonne, en fait. Ce système d'anonymisation me remet aussi à leur place les seniors, qui avaient aussi tendance à passer plus facilement leurs propositions et leurs idées que les juniors. Et bien voilà, ça aide aussi les juniors à passer, toutes les minorités, puisque les femmes sont une minorité en sciences, malheureusement, à proposer leurs idées. Et c'est un système qui maintenant est répandu dans la plupart des grandes agences comme la NASA, mais aussi l'European Southern Observatory. Les propositions de temps d'observation sont anonymisées. Et ça change des choses.
Louis-Pascal Jacquemont, vous souhaitiez vous aussi réagir?
Oui, disons que cette collection de stéréotypes qui place les femmes doit beaucoup au XIXe siècle. C'est-à-dire, en fait, au moment où la médecine et la biologie a en quelque sorte, d'une certaine manière, fossilisé l'idée que l'on de la place que l'on donnait aux femmes, c'est-à-dire une place seconde, en disant elles ont un cerveau plus petit, etc. Et il a fallu effectivement tout le mouvement d'émancipation des femmes, notamment à la fin du XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle, pour que progressivement les questions d'égalité homme-femme revisitent d'une certaine manière ce que la physiologie avait affirmé de manière apparemment rationnelle, mais totalement stéréotypée, et surtout parce que derrière il y a des enjeux de pouvoir. On le voit bien dans les hiérarchies institutionnelles et autres, comme le dit Fabienne Casiodi, c'est le même phénomène par rapport aux choix qui sont faits pour les recherches. On vous dira facilement, mais oui, mais spontanément, les femmes proposent moins de choses, des choses comme ça, mais tout simplement parce qu'on n'a pas mis en place les mécanismes qui sont des contre-pouvoirs pour pouvoir le faire. Or, on en a donné un exemple tout à fait éclairant, justement, dans des grandes institutions actuelles. Mais ça n'est pas fini. L'anecdote toute simple que je vais vous citer, que je n'ai pas citée dans mon livre parce que c'est arrivé au mois de décembre 2024, c'est-à-dire au moment de la remise des prix Nobel de 2024, je vous signale que le Nobel de médecine a été attribué à deux physiologistes américains, Gary Rafkin et Victor Ambros. Or, sur le sujet sur lequel ils travaillaient, c'est-à-dire les effets des micro-ARN, eh bien, tout simplement, c'est l'épouse de Victor Ambros qui a écrit le premier article et qui a défini cette structure. Elle s'appelle Rosalind Lee. Eh bien, cette femme-là n'a pas été désignée comme troisième prix Nobel alors qu'il y avait encore une place, et alors qu'elle est à l'origine de ce travail. Donc, vous voyez bien qu'en 2024, on a encore des comités Nobel qui sont capables de ne pas voir clair, mais on va tout simplement dire, comme disait un des membres du prix Nobel, ah, on avait cru qu'elle était l'assistante de Monsieur Ambros.
Mais toujours ce rôle d'assistante. Alors aujourd'hui, en 2026, comment s'empare-t-on de ces questions d'inégalité de genre, par exemple à l'Observatoire de Paris, Fabienne Casoli?
On essaie d'agir à tous les niveaux. Bon, clairement, si on veut attirer plus de femmes ou de filles dans les sciences, il faut commencer très tôt. Je crois que dans une de vos émissions, vous avez parlé de cette enquête qui a été menée auprès des... Enfin, cette enquête, des résultats, des analyses, des enquêtes qui sont faites systématiquement auprès des élèves de CP, qui montrent qu'au début du CP, tout début du CP, les filles sont tout à fait aussi bonnes que les garçons en sciences, et 4 mois après, elles sont moins bonnes. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc il faut commencer par aller parler dans les classes le plus tôt possible, parler de sciences de manière non genrée, y aller, que ce soit des femmes qui y aillent, proposer des modèles qui ne soient pas forcément des Marie Curie, mais montrer que la science, ça peut être amusant, excitant, passionnant. Et puis continuer à tous les niveaux, continuer à faire très attention à ce que, au niveau licence, master, doctorat, il n'y ait pas une évaporation systématique des femmes, pourtant c'est le cas. Faire des actions symboliques. Alors, on a récemment renommé certains de nos bâtiments. Nous avons un bâtiment Le Pote, un bâtiment Chandon. Donc, ça donne l'occasion de parler de ces femmes. Je pense qu'il y a aussi à agir sur l'enseignement. Pour ma part, moi, j'ai beaucoup souffert de la dichotomie entre lettres et sciences. Et je pense que dès qu'on marque cette différence, on effraie un certain nombre de jeunes filles. Alors, à l'Université Paris Sciences et Lettres, dont l'Observatoire est composante, ont été mises en place des licences pluridisciplinaires où ce choix entre sciences et lettres est retardé ou même, en fait, encouragé, l'interdisciplinarité est encouragée. Et en fait, ce sont des licences qui sont vraiment paritaires. Et on voit que les candidatures pour ces licences, ce sont des licences sélectives, mais les candidatures sont paritaires. Donc, il faut agir à beaucoup de niveaux. Tout est bon à prendre. Malheureusement, les choses bougent assez lentement.
Oui, comme vous dites, au niveau des étudiants, typiquement, on a, je crois, 30%, 35% de femmes dans les étudiants de master, puis ça descend à 30% en doctorat et encore moins en post-doc.
Et encore moins en post-doc, et puis finalement, parmi les chercheuses et les chercheurs, en astrophysique, on est plutôt à 20-25%. Ce qui est un peu désolant, c'est que je pense qu'il y a 50 ans, il y avait plutôt un tiers de femmes. Donc, bon, c'est une des rares disciplines où la situation est plutôt en train d'empirer.
En tout cas, fait historique, on peut dire qu'on a la chance aussi aujourd'hui de voir qu'on a des grands observatoires internationaux qui commencent à être nommés par des noms de femmes, le Vera Rubin ou le Nancy Grace Roman Telescope qui va être lancé à la fin de l'année.
Oui. Et ça, les symboles sont vraiment forts, c'est bien.
Merci, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se tourner vers votre ouvrage, Louis-Pascal Jacquemont, L'effet Mathilda, ouvrage de référence préfacé par la grande historienne Michel Perrault. Merci à vous trois. Et tout de suite, on change de sujet et on se plonge dans les œuvres de Van Gogh. C'est la chronique avec science.
Et si Van Gogh n'était finalement pas un si bon physicien que cela? C'est une chronique un peu particulière que je vous propose aujourd'hui. Il y a un an et demi, je parlais ici de la vraie physique cachée dans la nuit étoilée. Il s'agissait d'une étude parue dans Physics of Fluids et dont le premier auteur est Ying Xian Ma. Ces scientifiques mettaient en évidence que ce célèbre tableau représentait avec beaucoup de justesse un phénomène de physique des fluides nommé la turbulence, c'est-à-dire que les tourbillons du ciel étoilé suivraient, selon leurs résultats, une loi mathématique particulière nommée loi de Kolmogorov. Une étude fascinante, donc, et extrêmement médiatisée, et c'est d'ailleurs en écoutant France Culture que ce chercheur a eu vent de ses travaux. Daniel Bourgault est professeur-chercheur à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, au Canada.
Donc c'est un collègue d'une autre université qui sait que je m'intéresse aux arts aussi. Bon, je suis océanographe physicien, mais je m'implique aussi dans des projets artistiques, des projets parfois à mi-chemin entre l'art et la science. Et lui avait eu connaissance de votre chronique. Il m'a envoyé ça. Tiens, Daniel, j'ai pensé à toi. Je pensais que ça pouvait t'intéresser. Et donc, j'ai écouté la chronique avec beaucoup d'intérêt. Et je suis allé voir l'article de Ma et ses collaborateurs. De par la crédibilité de votre média, de par le fait que l'article est publié dans un journal scientifique reconnu, Physics of Fluids, et j'ai généralement une grande confiance à la méthode scientifique, aux publications scientifiques. Donc, dans un premier temps, je trouvais ça même assez fascinant. Mais après un peu de réflexion, je me suis mis à lire l'article plus en détail pour me rendre compte que c'était, à mon avis, tout à fait incongru comme démonstration.
Soyons clairs, il ne s'agit ni d'une fraude ni d'une manipulation de données. Ce que critique ce chercheur, c'est la méthode. L'analyse spectrale qui a été utilisée ici serait trop permissive et cette fameuse loi de Kolmogorov serait insuffisante pour démontrer l'existence de turbulences. Pour le prouver, il a mené avec plusieurs collègues la même analyse sur d'autres tableaux. Cette nouvelle étude parue dans la revue Bulletin of the American Meteorological Society est en fait un raisonnement par l'absurde. Elle révèle qu'on retrouve la même signature mathématique dans La femme aux chrysanthèmes d'Edgar Degas, une œuvre où il n'y a ni atmosphère mouvante, ni liquide, et donc certainement aucune turbulence. Ils ajoutent un autre argument, il est fort peu probable, selon eux, qu'un peintre impressionniste ait voulu représenter fidèlement un phénomène physique qui est, de surcroît, invisible à l'œil nu. Mais alors, qui a raison? En toute honnêteté, je suis bien incapable de vous le dire. Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, ce n'est pas tant le désaccord scientifique que le fait que le débat lui, ait été entravé. Daniel Bourgault et ses collègues ont tenté de publier leurs critiques dans Physics of Fluids. C'est la norme, quand on débat d'un article, on le fait dans le même journal. Mais leur texte a été rejeté d'emblée, sans passer par l'évaluation par les pairs, sans relecture par les experts du domaine. Il avait d'ailleurs proposé un format plus court, refusé lui aussi, et juste avant de publier ailleurs, il a découvert qu'il n'était pas le seul dans ce cas-là.
Avant d'envoyer la copie, la version tout à fait finale, on a toujours la chance de réviser un peu, je refais rapidement une revue de littérature pour voir est-ce que d'autres articles dans d'autres journaux auraient, entre-temps, parce qu'il y a quand même des délais de quelques mois entre la soumission de l'article puis sa publication, un peu au dernier moment, avant de soumettre la version finale. Petite recherche revue de littérature, qu'est-ce que je ne vois pas? Un article de Riley et Gadelak, donc Jim Riley et Mohamed Gadelak, qui critique l'étude de Ma et ses collaborateurs, publié dans le Journal of Turbulence. Et là, ce qu'ils nous disent, et là, on tombe en bas de notre chaise, eux ont passé par précisément le même mécanisme. Ils ont soumis à Physics of Fluids leur critique, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs, de soumettre au même journal une critique. D'ailleurs, souvent, les journaux acceptent pas de publier dans leur journal une critique d'un autre journal. Donc, eux ont passé par exactement le même chemin. On s'est échangé des courriels de réponses qu'on a eu de Physics of Fluid et c'est les mêmes réponses mot pour mot. C'est des blocs de paragraphes qui sont copiés tels quels et ils n'ont pas été en revue non plus.
Même parcours, même réponse et même refus. Depuis, Physics of Fluids a fait son mea culpa, un commentaire collectif est désormais publié sous l'article original. Et c'est essentiel, le débat est le moteur même de la science et si ses résultats sont fragiles, il faut pouvoir le savoir tout en lisant l'article. Le co-auteur de l'étude initiale, François Schmitt, que j'avais interviewé lors de la première chronique, ne comprend pas ses critiques. Il m'a aussi confié, je cite, qu'il ne s'était jamais fait attaquer comme cela auparavant. Je cesse maintenant de compter les points, ce qu'il faut retenir, c'est que parler de science, ce n'est pas seulement raconter des découvertes spectaculaires, c'est aussi exposer les désaccords, les zones d'ombre, les débats et les incertitudes, et c'est précisément là que la science se construit.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et comme chaque mercredi, on retrouve le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous propose donc chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Vous n'êtes pas uniquement le fruit d'un choix, mais d'une chaîne ininterrompue de reproduction remontant à des milliards d'années. Et pourtant, nous sommes la seule espèce capable de refuser de se reproduire, car la seule à faire le lien entre sexualité et reproduction. Nous vivants, nous sommes issus d'humains qui se sont reproduits, eux-mêmes issus des premiers primates, sorte de tout petits singes qui se sont reproduits. Des premiers mammifères, pas plus grands qu'une souris, qui se sont reproduits. Et si on remonte encore plus loin, nous venons d'êtres unicellulaires qui, eux aussi, se sont reproduits. Sinon, nous ne serions pas là. Donc, comme tout être vivant, nous sommes issus d'ancêtres qui se sont reproduits. Par définition, sans reproduction, pas de descendants, et donc, pas d'évolution. Comme le dit le grand théoricien de l'évolution Richard Dawkins, la nature est une vaste machinerie de reproduction aveugle. Dans le monde vivant, les individus sont en effet les instruments de la propagation des gènes de génération en génération. C'est pour cela qu'il parle de gènes « égoïstes », entre guillemets. On le voit bien, dans toutes les espèces, les organismes développent des comportements sexuels qui aboutissent à la reproduction. La sélection naturelle a favorisé ceux qui avaient les meilleurs atouts en ce sens. Que ce soit le paon mâle qui déploie un magnifique ramage pour attirer la femelle, l'orchidée qui trompe l'insecte pour qu'il diffuse son pollen, le cerf qui brame au fond des bois pour signaler sa présence aux femelles. Cette reproduction sexuée, via les gamètes, permet de mélanger l'ADN des deux parents pour constituer un nouvel individu. Ce mélange est un moteur de nouveauté, de diversité, ce qui est le socle de la sélection naturelle. Elle trie parmi tous ses possibles ceux qui survivront le mieux et se reproduiront le mieux. Et nous, les humains, grâce à notre super cerveau qui permet de nous projeter dans l'abstraction, nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir nous rebeller contre les gènes égoïstes. En effet, les humains ont développé la conscience du lien entre sexualité et reproduction, entre acte sexuel et faire des bébés. Ma collègue anthropologue au Musée de l'Homme, Priscille Touraille, le résume ainsi. Les humains, s'ils savent pratiquer la sexualité pour le seul plaisir, sont aussi les seuls sur Terre à pratiquer le coït dans le but d'avoir des enfants. Autrement dit, nous ne sommes pas programmés pour nous reproduire, mais nous avons le choix. Et ça, c'est une réalisation absolument extraordinaire. Elle seule permet de contrecarrer la course à la reproduction que mènent, en théorie, toutes les espèces. Cette course étant généralement limitée par les prédateurs ou les ressources. Or, cela ne semble pas arrêter la course démographique des humains. D'ailleurs, l'espèce humaine a déjà atteint les 8 milliards d'individus. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les ressources censées permettre la pérennité de l'espèce.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.